Studio Damani, voici nos informations en français.
Merci de renouveler votre confiance au programme du Studio Tamani. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue aux informations. Voici les titres. L'audience de confirmation des charges de Al-Hassan est fixée de façon provisoire au 24 septembre 2018 par la CPI. L'annonce a été faite hier par les responsables de la Cour pénale. Cette audience déterminera s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Plus de 4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Mali. Selon la directrice du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad, la situation humanitaire au Mali n'a connu aucune évolution positive. L'unique scanner de l'hôpital Gabriel Touré est de nouveau fonctionnel. Toutefois, les responsables de l'hôpital demandent un second scanner pour permettre une alternance. À la présentation, Mariam Maïga. Al-Hassan Abdulaziz Mohamed Mohamoud a comparu hier devant la Cour pénale internationale. La juge unique de la chambre préliminaire a fixé de façon provisoire le début de l'audience de confirmation des charges au 24 septembre 2018. Cette audience va déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Pour les organisations maliennes de défense des droits de l'homme, cette comparution d'Al-Hassan était ouf de soulagement pour sa victime, malgré la complexité et la lenteur des procédures de la Cour pénale internationale. Drissa Traoré, coordinateur du projet conjoint FDIH-IMDH, était l'un des invités de notre émission Le Grand Dialogue.
Cette audience de confirmation des charges peut aboutir à trois décisions. D'abord, une décision qui peut aboutir à la confirmation des charges et au renvoi au jugement, ou une décision qui peut bien sûr infirmer les charges, ce qui n'empêche pas au bureau du procureur de présenter ultérieurement des éléments de preuve. Et le troisième cas de figure est un peu similaire au deuxième cas, car c'est aussi une opportunité donnée au bureau du procureur, et si nous disons au juge d'ajourner l'audience et de demander au bureau du procureur de présenter de nouveaux éléments. Donc cela a été fait dans plusieurs procédures au niveau de la CPI, dont le cas de Gbagbo. Donc pour l'instant, il sera prématuré de se prononcer sur une durée approximative du procès, mais ayant à l'esprit que c'est une procédure complexe et c'est une procédure aussi qui demande aussi, et bien sûr, d'étudier à la loupe les éléments de preuve pour bien sûr garantir un procès équitable.
Au même moment, certains activistes dénoncent la partialité des autorités dans le traitement des auteurs des persécutions des populations pendant la crise de 2012. Ils regrettent le fait que certains présumés auteurs des crimes contre l'humanité soient relâchés par les autorités alors qu'ils doivent être jugés. Fatoumata Harber, web activiste résident à Tombouctou, était l'un des invités du Grand Dialogue.
Je pense que l'État malien devrait d'abord venir à juger ces personnes-là qui ont commis ces crimes et ces exactions sur le peuple malien, ici au Mali, comme ce Touré qui a écopé de 10 ans de prison. Donc moi, en réalité, je n'ai pas compris. Quand on fait dossier de ces auteurs de crimes-là, nous avons l'impression que l'État malien fait du deux fois deux mesures. Pendant que certains auteurs, certains criminels sont jugés ici au Mali, d'autres sont extradés et d'autres sont ont même été libérés par l'État malien alors qu'ils font l'objet de plaintes. Il y a notamment M. Al-Husseini Okaoka qui a été le juge islamique à Tombouctou durant la période 2012-2013. Le monsieur a été tout simplement libéré alors qu'il fait l'objet de plaintes. C'est quelque chose que vraiment nous dénonçons.
Faites un tour sur la page Facebook, le compte Twitter du Studio Tamani pour y réagir à toutes ces informations. Aucune évolution positive de la situation humanitaire au Mali, déclare la directrice du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Tchad. Dans une interview accordée à Studio Tamani ce mercredi, Ute Koliz annonce que plus de 4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans le pays. Au Tchad demande aux bailleurs de fonds plus de soutien pour mieux faire face à la situation. Le point avec Assetou Kanté.
La recrudescence de l'insécurité, le déficit pluviométrique, l'insuffisance de financement financement sont les principales causes de la détérioration de la situation humanitaire au Mali, selon les responsables d'OCHA. Pour la directrice du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Mme Ute Kolis, plus de 5 000 ménages ont besoin d'assistance alimentaire dans le pays.
Plus de 4 millions de personnes qui sont au besoin. Et ça veut dire qu'on a 400 000 en plus si on compare avec la vulnérabilité de la population en 2017. Nous avons l'insuffisance de financement. Malheureusement, jusqu'à là, nous avons seulement reçu 6% de ce que nous avons demandé pour cette année, des 263 millions US dollars. Malheureusement, ces populations sont presque tous dans les zones d'insécurité aiguë, ce qui fait que l'accès humanitaire devient de plus en plus compliqué.
Selon les données statistiques, le nombre de personnes vulnérables va doubler en période de soudure si rien n'est fait, explique la directrice d'OCHA.
Le chiffre va se doubler entre 375 000 personnes qui sont touchées maintenant pour la phase 3. On parle de plus que 800 000 personnes qui seront alors affectées pendant la saison de soudure entre juin et août. La phase d'urgence, où nous parlons d'environ 11 000 personnes maintenant spécifiquement à Mopti, Tombouctou et Gao, alors ce chiffre sera 4 fois augmenté. Et ça veut dire, malheureusement, nous devons assurer le financement pour intervenir et nous devons vraiment assurer la coordination entre tous les acteurs pour faire face à cette problématique.
Face à cette situation alarmante, des mesures sont prises pour répondre aux besoins des populations, rassure Mme Kolis. Toutefois, elle souligne qu'il reste beaucoup à faire encore.
On a augmenté notre plaidoyer à travers les bailleurs de fonds. Aussi, si vous regardez, nous avons une cible de 1 500 000 personnes cette année. Qu'est-ce que nous avons fait comme réponse en cours? Nous avons, avec le PAM, l'UNICEF, le CICR, les ONG internationales et nationales, assuré que l'argent qui était reçu, nous avons appuyé les zones les plus vulnérables avec la distribution et nous sommes en train de faire une cartographie maintenant pour vraiment instruire et informer tous les acteurs comment avancer dans les mois qui suivent.
Le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait lancé une alerte concernant la fermeture de plus de 700 écoles à travers le pays. Selon les responsables d'OCHA, cette situation ne s'améliore guère.
Le Mali et le Burkina Faso, deux pays confrontés à des attaques djihadistes, veulent renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays s'engagent également à développer les actions économiques et sociales. Le point avec Omar Waïgalo.
Les deux pays comptent désormais multiplier leurs efforts dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement des actions sociales et économiques. Il nous a paru important au niveau des gouvernements de renforcer notre coopération bilatérale pour pouvoir faire face à la menace terroriste, a déclaré le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Tiéba à l'AFP lors de la visite du Premier ministre malien Soumaïlo Boubé Maïga à Ouagadougou. Alors que son homologue malien Soumaïlo Boubé Maïga a affirmé que la riposte contre le terrorisme ne doit pas être seulement militaire, mais aussi le développement des activités génératrices pour la population vulnérable. Pour le Premier ministre burkinabé, c'est la désespérance, l'injustice, la frustration, la pauvreté qui exposent souvent les populations à l'emprise des forces du mal. Selon Paul Kaba Tiéba, les autorités maliennes et burkinabées vont partager des renseignements de manière à ce qu'elles puissent coordonner leurs actions pour éradiquer la menace à laquelle les deux pays font face.
Faire un scanner, c'est désormais possible au CHU Gabriel Touré. L'appareil en panne depuis quelques mois est opérationnel depuis vendredi dernier. Notre reporter Aliou Silibé a fait un tour dans cet hôpital. Voici son reportage.
En moins d'une semaine de reprise de service, une cinquantaine de malades ont pu effectuer leur radiographie au service de scanner de l'hôpital. Pour l'heure, la priorité a été accordée aux cas d'urgence. Selon le directeur du CHU Gabriel Touré, l'hôpital situé en plein cœur de Bamako reçoit le plus grand nombre de patients, ce qui explique les nombreuses sollicitations du scanner. Kassoum Mamourou Sanogo.
Les pannes fréquentes de nos équipements dans le scanner sont liées à la surutilisation de ces équipements. En parlant du scanner, voici une machine qui est très robuste, très solide, qui sert à faire des images, des radiographies. Mais la sollicitation est telle que cette machine, une fois qu'on l'allume le matin, on ne peut plus l'éteindre. Ça veut dire que c'est une machine qui tourne 24 heures sur 24. Une machine ne peut pas tenir un tel régime pendant longtemps. Le fabricant ne l'a pas prévu ainsi.
Cette reprise en service du scanner a été un soulagement pour les malades, en témoigne ce patient que nous avons trouvé dans la salle.
J'ai eu un choc au terrain de football, donc je me suis venu pour faire le scanner.
Et le scanner, vous l'avez déjà fait?
Oui, je l'ai déjà fait, oui. J'ai fait le scanner aujourd'hui même. Ça concerne la tête, au niveau de la tête, quoi. J'ai pas le résultat de mon médecin en cours. Tout s'est bien fait quand même.
Le directeur du CHU, Gabriel Touré, se félicite de cette reprise de service du scanner. Toutefois, pour le professeur Sanogo, il faut impérativement un second appareil pour éviter d'autres désagréments.
C'était là un reportage de Aliou Sidibia avec la voix de Fatoumata Togola.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, un chef de village et son conseiller enlevés par des hommes armés non identifiés à Daga dans le cercle de Tenenku en région de Mopti. Selon les sources locales, les faits se sont déroulés lundi dernier vers 19h. Actuellement, c'est l'inquiétude et la panique dans le village. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas car l'info continue.